piacere dalle sacche del monte, che pane sa ne sono ne salva, e me se sa de son fils ce qu'est réellement son œuvre, et c'est cette œuvre là qui nous repose. Voyez, c'est dans l'écoute de la prédication de la foi que nous nous retrouvons dans la foi, par la foi et pour la foi. Encore, nous sommes en Christ, le Dieu qui se révèle à travers sa parole. Donc que son nom soit béni. Nous n'attendons pas de lui, pas des choses que nous imaginons ou pensons. Voilà ce qui fait la véritable grâce et la bonté de Dieu et fidélité à notre endroit. Ok. Nous rendons toujours triomphant par sa parole, par sa présence et par la bénédiction de sa parole. Encore, nous allons prier le Seigneur et démarrer. D'accord? Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment béni que tu nous as donné le privilège de partager. Nous attendons de toi et te bénissons pour notre frère Ken qui, dans ses occupations et de loin, se trouve en communion avec nous. Tu partages avec nous, ta gloire, celle que tu as donnée à ton fils, et par ton fils, nous partageons avec toi. Seigneur, fais-nous croître dans cette grâce et dans la connaissance de ton fils. Que ton nom soit donc béni. Nous nous recommandons à toi et à la parole de ta grâce au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Ok, merci vraiment. Nous sommes très contents. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Et nous vous laissons la parole. Et...
Bien. Reprenons notre étude dans la première épître selon Jean et le chapitre 1. Dans notre première étude, nous avons étudié le Seigneur Jésus comme le Fils éternel de Dieu. L'apôtre Jean écrivait dans le premier verset ce qui était dès le commencement. Donc cela parle de Christ comme étant éternel, le Dieu éternel, dès le commencement. Mais aujourd'hui, nous allons continuer dans notre étude pour voir comment ce Dieu éternel s'est manifesté en chair. Il est devenu homme. Dieu est esprit et nous ne pouvons pas le voir de nos yeux. Pourtant, Jean dit ici dans le premier verset ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant quoi? La parole de vie. Donc, nous allons contempler aujourd'hui comment Christ est la parole de vie, comment Dieu s'est manifesté à travers son Fils comme la parole de vie. Ce que nous avons révélé dans la Bible, c'est que le Dieu de l'univers s'est manifesté en chair. Il est venu sur cette terre. Il a marché sur cette terre comme un homme. Et Jean et les autres apôtres étaient des témoins oculaires. Ils ont vu de leurs yeux et ils ont entendu de leurs oreilles. Je sais que c'est un mystère et c'est de cette manière que l'apôtre Paul lui-même écrivant à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 16, il parle du fait que Dieu est devenu chair comme étant un mystère.
Tout le monde dit, Apôtre Paul, 1 Timothée, chapitre
3, et le verset 16.
Oui. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Mais, apôtre Paul, le nom de Juan, il est le nom de Juan, il est le nom de Juan, il est le nom de
Paul dit et sans contredit, c'est-à-dire si même les hommes veulent contredire cette vérité, néanmoins, c'est de cette manière que Dieu se révèle dans la Bible. Peu importe les discussions ou bien les disputes des hommes, voici une vérité qu'on ne peut pas contredire. Un mystère est quelque chose qui doit être révélé. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement apparent aux gens. Donc, ça exige à ce que Dieu lui-même révèle qui il est aux hommes à qui il veut. Ça, c'est le fond de l'évangile. Si on demande, mais qu'est-ce que l'évangile? Ça concerne Dieu dans la chair. Comment Dieu s'est manifesté dans la chair? Et Paul l'appelle ici un mystère de la piété qui est grand. C'est au-dessus de ce que l'homme peut imaginer. Même nous.
Oui, c'est ça. Et quand bien mis le mot là, mais quand c'est pour Dieu, mon maman, on a des clés de la base à mes mots, on a des clés de la base à mes mots, on a des clés de la base à mes mots, on a des clés de la base à mes mots, on a des clés de la base à mes mots, on a des clés de la base à mes mots,
ce Jésus de Nazareth dont Jean dit qu'ils avaient entendu et que leurs yeux ont vu et qu'ils ont contemplé et leurs mains ont touché n'est pas autre que Dieu dans la chair. C'est écrit ici, celui qui a été manifesté en chair.
Quand nous pouvons donner,
C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Venir à Christ égale venir au Père. Et c'est pourquoi Paul, dans 1 Timothée 3 et le verset 16, dit que celui qui est venu en chair justifié par l'Esprit. Cela veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a justifié comme étant Dieu dans la chair. Lorsque Paul écrit à Timothée encore dans 1 Timothée 3, 16, disant « vu des anges », c'était des anges qui étaient là pour annoncer sa naissance au berger, et les anges étaient là lorsque Christ est monté au ciel à la fin de sa vie sur cette terre, lorsqu'il a été enlevé devant les yeux des disciples, les anges sont apparus pour dire « qu'est-ce que vous attendez ? » Ce même Jésus que vous avez vu monter, partir, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir, vu des anges. Et puis les Écritures ajoutent là dans 1 Timothée 3, 16, « prêchez aux gentils ». Cela veut dire que Christ n'est pas venu simplement pour la nation juive. Ils attendaient un Messie selon ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, mais il n'est pas venu exclusivement pour les Juifs. Les élus que le Père lui a donnés venaient de toute nation, de toute langue. Prêchez aux gentils, prêchez au monde. Et quand c'est écrit « cru dans le monde », Christ est venu vers les siens, c'est-à-dire les Juifs. C'était à eux qui ont été donnés les oracles de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ils sont restés aveugles. Pourtant, dans le plan éternel de Dieu, il a choisi un peuple du monde. Et ce peuple du monde a cru au Seigneur Jésus selon la grâce et la volonté de Dieu. Cru dans le monde.
Et donc, cru, ça est dit. Nous faisons attention. Et donc, il va dire, et bien, pour que nous faisons du film, et nous, il y a des télés, où est ma voix, il faut que nous faisons du film, et là, nous,
pourquoi certains croient et d'autres ne croient pas? Il faut dire que ceux qui ne croient pas, c'est parce que Dieu les laisse à leur sens réprouver. Mais ceux qui croient, parce que c'est un mystère, la manière de connaître Dieu dans la chair, dans la personne du Seigneur Jésus, c'est l'Esprit qui doit le révéler. Regardez avec moi dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, et voir comment l'apôtre Jean décrit la manière de recevoir Christ. Dans le verset 11, il dit, elle est venue chez les siens. Qui? La parole de vie que nous sommes en train d'étudier. Et les siens ne l'ont point reçue. Ça, c'est toujours la réaction naturelle des hommes pécheurs face à Christ. Ils ne le recevront jamais. Il y en a qui disent, mais pourquoi alors prêcher Christ si les hommes sont endurcis? L'espoir est dans le fait que Dieu lui-même agit dans les cœurs des pécheurs pour qu'ils reçoivent Christ.
Voilà, nous
ceux qui ont cru dans le monde sont ceux à qui Dieu lui-même a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça que le verset 12 nous dit. Ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cela ne vient pas d'eux. Elle, c'est-à-dire la parole de vie, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi ils croient. Si nous connaissons Christ aujourd'hui, et j'espère que je parle à certains d'entre nous, plusieurs, à qui Dieu a donné ce pouvoir, la gloire ne revient pas à nous. Ce n'est pas que nous sommes plus intelligents que les autres, mais il a plu à Dieu de révéler ce mystère en nous. Notez bien à la fin de Jean 1, le verset 12, Jean dit, lesquels sont nés? Qui d'entre nous avait participé à notre naissance pour dire nous avons contribué quoi que ce soit? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Et c'est ainsi aussi que nous recevons Christ. C'est par la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire. Et notez dans le verset 13, non du sang. Ce n'est pas le fait que j'ai des parents qui peut-être sont à Christ et des chrétiens que maintenant, moi aussi, alors je serai aussi chrétien. Non, non du sang. Ça ne provient pas de l'homme. Certains d'entre nous qui sommes des parents et nous avons nos enfants et Christ s'est révélé en nous. Mais cela ne veut pas dire alors que nos enfants doivent nécessairement recevoir Christ. Non, c'est Dieu qui décide qui est à lui et qui n'est pas à lui.
Et donc, il y a un peu de temps, 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 il y a un
Donc, notez deuxièmement dans le verset 13, non du sang ni de la volonté de la chair. Cela veut dire on ne peut pas regrouper plusieurs pour dire nous allons prier pour tel ou tel et c'est pas là nos prières que Dieu va agir. Non, et c'est écrit ni de la volonté de la chair. Et troisièmement, dans le verset 13, c'est écrit « ni de la volonté de l'homme ». Ah, voilà, maintenant ça touche l'idole. Parce que les gens disent « non, mais Dieu a tout fait, maintenant c'est à moi la décision ». Non, « ni de la volonté de l'homme ». Donc, à quoi est-ce qu'on attribue le fait que nous sommes à Christ et enfants de Dieu? Si les gens lisaient la Bible les yeux ouverts, ils allaient voir, c'est écrit dans le verset 13, « mais de Dieu ». C'est la seule chose qu'on peut dire. Les gens peuvent s'informer, ils peuvent lire cette Bible et avoir certains faits au sujet du Seigneur Jésus, mais le connaître au cœur et le voir tel que Jean le décrit ici dans toute sa gloire, comme et ayant le salut en lui-même, ça c'est l'œuvre de Dieu seul. Donc, c'est dans le verset 14 que nous voyons la même vérité que Jean est en train de communiquer dans son épître dans 1 Jean chapitre 1. C'est la parole qui a été faite chair, cette parole de vie, Dieu dans la chair, voilà qui il est. Et quand il dit « elle a habité parmi nous », Ce mot habiter, c'est le même mot que nous avons dans l'Ancien Testament pour le tabernacle. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à Israël dans l'Ancien Testament? C'était à travers ce tabernacle. C'était un type du Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Il habitait parmi eux. Le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament représente le peuple de Dieu qu'il a élu, parce que Israël a été choisi par Dieu et il a plu à Dieu d'habiter parmi eux, comme il a plu à Dieu en Jésus-Christ d'habiter parmi son peuple élu par le sacrifice de Christ. Il est leur souverain sacrificateur. Ouais, toutes les images que nous avons ici. Et lorsque c'est écrit pleine de grâce et de vérité, où est-ce que la grâce de Dieu réside? Où est la vérité au sujet de Dieu? C'est en Christ. Raté Christ et nous n'avons pas Dieu. Et Jean le dit dans le verset 14, et nous avons contemplé sa gloire, exactement comme la gloire de Dieu résidait au-dessus du tabernacle dans l'Ancien Testament, dans la nuée. C'est Jean qui dit, cette même gloire nous avons contemplée, manifestée à travers le Seigneur Jésus-Christ dans la chair.
Mais bon, bête-toi bien. Maman, non, vous, mais
Voilà alors ce qui fait la différence entre la manière que les hommes du monde, dans leur sens naturel, contemplent le Seigneur Jésus. Ils voient un homme de bien, ils voient un prophète, ils voient en lui un homme historique. Mais la différence, c'est que ceux en qui Dieu daigne révéler Christ, ils voient, ils contemplent sa gloire. Revenons encore sur l'exemple d'Israël où le tabernacle était au milieu et la nuée de la gloire au-dessus et le campement du peuple de Dieu était tout autour et ils observaient tous les jours la manière que les souverains, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs entraient et sortaient de ce tabernacle. Ça, c'est une image de l'adoration que nous faisons à travers le Seigneur Jésus-Christ séparé du monde. Nous avons beaucoup de gens autour de nous qui disent qu'ils adorent Jésus. Mais quand on voit leur manière et quand on écoute ce qu'ils prêchent, c'est la gloire du Seigneur Jésus qui manque. Pour eux, ils servent selon leur plaisir, selon la chair. Leur Dieu est en fait leur chair, tout en utilisant le nom de Jésus, comme si ils ont son approbation de ce qu'ils font. Non. Là où Christ est révélé au cœur, toute la gloire revient au Seigneur Jésus en toutes choses.
Jésus-Christ,
Jean décrit cette gloire dans le verset 14 comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout ce que nous devons connaître, comprendre concernant le Père est révélé dans le Fils. Si nous voulons connaître ce qui concerne la sainteté de Dieu, c'est révélé en Christ. Ce que nous voulons savoir, ce qui concerne la miséricorde de Dieu, c'est en Jésus-Christ et non pas ailleurs. Donc, revenons dans notre texte, ici dans 1 Jean chapitre 1, à la fin du verset 1, quand Jean parle de celui qui est la parole de vie. Cela veut dire celui qui est la parole à travers laquelle la vie est donnée, sans que Christ lui-même ne donne la parole. Aucun ne peut avoir la vie. C'est selon celui qui est la parole de vie que nous vivons.
Christ, we yuhuane su noeme moya, esiku mobea. O ho yuhu lomo wawa mi tentin bobi moya, o besin hoa. O ni besin hoa ne enamo, ne yi besin hoa ne oya, o fido kono ke, e yi, e do besin hoa yue. A yi lomo, yi me de lomo, jando di do eru fine na jere,
Maintenant, regardons dans le verset 2 de 1 Jean 1, le lien entre la vie qui a été manifestée et puis nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le Seigneur Jésus de leurs yeux lorsqu'ils marchaient sur cette terre, mais ils ne l'ont pas connu. Ici, quand c'est écrit « la vie a été manifestée », c'est plus que simplement parlant d'une manière physique, mais manifestée comment? La révélation de l'Esprit. Quand Jean parle ici, c'est que c'est Dieu qui lui a donné l'esprit de contempler et voir, quand il dit « nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage », aucun ne peut rendre témoignage du Seigneur Jésus tant que l'Esprit de Dieu ne l'a pas manifesté dans leur cœur. C'est ici la réponse à la question de savoir pourquoi certains qui lisent la même Bible que nous et ils voient la même révélation écrite ici, mais qui ne contemplent pas le même Christ que nous contemplons et que nous voyons et que nous adorons. La réponse est simple. C'est parce qu'ils regardent ce qui est écrit de leurs yeux physiques et ils lisent de leur propre intelligence. Mais il faut que l'Esprit révèle, manifeste ce Christ en eux. Notez bien l'ordre dans le verset 2. D'abord, la vie doit être manifestée, exactement comme il est venu dans la chair, mais dans l'esprit. Ce même Christ doit être manifesté au cœur. Et deuxièmement, nous l'avons vu. Cela veut dire, maintenant, nos yeux l'ont vu par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et puis, troisièmement, alors, nous lui rendons témoignage. Pourquoi quelqu'un ne prêche pas Christ tel qu'il est révélé dans la Bible? C'est parce que l'Esprit ne l'a jamais révélé encore. On ne peut pas prêcher celui qu'on ne connaît pas. C'était nécessaire que Christ soit manifesté dans la chair, parce que Dieu a ordonné le salut des pécheurs qu'il veut sauver, et il fallait que Christ vienne dans la chair pour accomplir ce salut. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc, c'était nécessaire que Christ vienne pour accomplir ce salut dans la chair à l'égard de ce peuple que Dieu a ordonné au salut. Et maintenant que Christ ait accompli ce salut pour le peuple de Dieu, c'est nécessaire maintenant que l'Esprit de Dieu le manifeste dans les cœurs pour que nous voyons, nous contemplons et nous annonçons celui en qui le salut réside. C'est ainsi qu'il est la parole de vie, c'est-à-dire la vie est donnée à travers lui, et c'est ainsi, comme c'est écrit, nous vous annonçons, verset 2, la vie éternelle. Aucun de nous ne peut avoir la vie éternelle si ce n'est selon l'ordre que le Père donne à travers le Seigneur Jésus-Christ. La vie est en lui, ce n'est pas en nous. Alors, verset 3 répète encore la troisième fois ce que nous avons déjà vu dans les deux premiers versets. C'est que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui peut-être voulaient avoir la communion avec nous. Et même, ils vont dire que nous sommes des troubleurs parce que nous refusons de nous joindre à eux. Mais pourquoi nous sommes séparés? En quoi est notre communion si ce n'est pas dans ce seul et unique Seigneur Jésus-Christ en qui est le salut seul? Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de salut à part son œuvre du début jusqu'à la fin. Mais eux, ils veulent la communion basée sur un mélange entre l'œuvre de Christ, mais aussi il faut que l'homme contribue. Ça, ce n'est pas notre communion. C'est en lui, c'est écrit. Notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Point. C'est pourquoi lorsque les gens s'approchent de nous en demandant à ce qu'on s'assoie ensemble et on partage la communion, avoir cette fraternité, la première des choses, lorsque nous nous asseyons avec eux, c'est de leur dire, mais d'abord, soyons d'accord sur Christ, qui il est, pourquoi il est venu, pour qui il est venu, qu'est-ce qu'il a accompli et où il est maintenant. Si nous ne sommes pas d'accord là, cela veut dire que nous ne servons pas le même Christ. Sur la première question, il y en a qui vont dire, non, nous sommes d'accord sur le fait que Christ est Dieu, mais pourtant, ils ne veulent pas que Christ agisse en tant que Dieu. Ils disent, non, il n'a pas le choix de sauver qui il veut. Seulement, il est Dieu, il est là pour assister ceux qui veulent croire, mais autrement, ça dépend de l'homme. Ça, ce n'est pas le Christ que nous adorons. C'est la deuxième question. Pourquoi il est venu? Ils vont dire, ah, mais je connais la réponse. Il est venu pour sauver tous les êtres humains. Non, ça, ce n'est pas ce que dit la Bible et ce n'est pas le Christ de la Bible. Il est venu sauver ce que le Père lui a donné de partout dans le monde, ce nombre d'élus. Alors, si on n'est pas d'accord là, cela veut dire que nous ne servons pas le même Christ. Et sur la troisième question, qu'est-ce qu'il a accompli? Les gens vont dire non, mais il a versé son sang afin de sauver tous les êtres humains. Pourtant, tous les êtres humains ne sont pas sauvés. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire de là? C'est que Christ a échoué alors. S'il a versé son sang et il n'a pas effectivement sauvé ceux pour qui son sang a été versé, ça c'est quel Christ? Ça c'est quel Jésus? Je dois dire, ça ce n'est pas le Christ que nous adorons. Il sauve effectivement, ayant payé la dette de chacun que le Père lui a donné. Voilà le Christ qui nous réunit.
Moi,
Si les gens croient qu'il y en a qui sont aujourd'hui à l'enfer, pour qui Christ a payé la dette, je peux dire que nous n'adorons pas le même Christ. Parce qu'il y a, Christ lui-même a dit, il ne perd rien de ce que le Père lui a donné. Alors, nous ne pouvons pas avoir la communion avec de tels. Quand Jean écrit là dans 1 Jean 1, le verset 4, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est-à-dire notre joie soit parfaite en celui qui est le Sauveur parfait. C'est là où est notre joie, en lui et dans cette communion que nous partageons à cause de qui il est et ce qu'il a accompli pour des pécheurs tels que nous sommes. Il y en a qui sont mécontents parce que nous refusions de nous joindre à eux. Mais mon point, c'est de savoir pourquoi quitter une communion parfaite que nous avons déjà dans le Seigneur Jésus-Christ pour aller se mêler avec des gens qui n'ont aucune joie dans le Seigneur que nous adorons. Pour eux, c'est prêcher les œuvres. Pour eux, c'est prêcher le libre arbitre. C'est prêcher toute autre chose. Non, nous avons en Christ déjà tout ce qu'il nous faut. Alors c'est dans ça, c'est en lui que nous avons cette parfaite communion. Nous avons sa parfaite présence, non seulement dans sa parole que nous avons ici, que nous sommes en train de lire et contempler, mais aussi sa parfaite présence en nous par son esprit. Quelle joie et quel honneur que de le connaître tel qu'il est.
Lo
Alors nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dieu voulant, nous allons reprendre à partir du verset 5, mais que le Seigneur bénisse à notre entendement sa parole, la parole de vie.
Okay.